Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Philippe Robuchon.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour deux heures d'infos. À la une, les patrons français ont un nouveau patron, Geoffroy Roux de Bézieux, 56 ans. Il succède à Pierre Gattaz. Pendant 5 ans, c'est lui qui va présider aux destinées du MEDEF. Ancien rugbyman, adepte de triathlon, fan de boxe, il devient le porte-parole des entreprises françaises à un moment où de grands chantiers sont en préparation, notamment la réforme de l'assurance chômage. Comment les syndicats accueillent-ils ce nouveau venu à la réputation très libérale? À 18h20, première réaction du secrétaire général de Force ouvrière Pascal Pavageau. RTL Soir, première édition avec vous, Céline Landreau, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Les titres.
Le braqueur le plus recherché de France reste introuvable, mais les enquêteurs ont la conviction que Redouane Faïd est toujours dans l'Hexagone. Son évasion avait été mûrement réfléchie. Le prisonnier avait même demandé à avancer un parloir avec son frère. Les familles de victimes espéraient des explications. L'audition de Nordal Lelandais a tourné court ce matin. Le suspect est resté à peine une heure face au juge. 304 enfants migrants en fermé en France l'an dernier, une hausse de 70% et un record selon les associations qui dénoncent ces placements au centre de rétention. Le foot et la Suède en quart de finale après sa victoire il y a quelques minutes sur la Suisse. L'équipe de France, elle, prépare son quart de finale face à l'Uruguay. Ce sera vendredi, préparation pour l'instant dans le plus grand secret. La Bourse de Paris termine en hausse ce soir, plus 0,76%. Le CAC 40 s'établit à 5316 points. Et puis les courses à Deauville, il fallait jouer le 7, le 13, le 5, le 16 et le 15.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, l'a confirmé. Dès la rentrée prochaine, des enseignants toucheront une prime s'ils travaillent en REP+, c'est-à-dire dans les quartiers les plus difficiles. Qui touchera, combien et sur quels critères? À 18h28, dans les coulisses de l'actu, on vous expliquera à quoi va servir la 5G. Bouygues Télécom en a fait une démonstration aujourd'hui à Bordeaux. Juste après 18h30, l'édito d'Olivier Mazerolles, pour des raisons diamétralement opposées, l'immigration va sceller le destin politique d'Angela Merkel et de Marine Le Pen. 18h35, deuxième invité de RTL Soir, Frédéric Mercadal. Depuis plus de 20 ans, il est d'une figure du quartier des Isards à Toulouse, entraîneur de foot. Il a croisé au cours de sa carrière des centaines de jeunes. Beaucoup s'en sont sortis, mais certains, malgré le sport, ont très mal tourné, notamment Mohamed Merah, auteur des tueries de Montauban et Toulouse. Son expérience de la banlieue difficile, ses réussites, ses échecs, Frédéric Mercadal les raconte dans un livre qui vient de sortir, intitulé « Le sport contre la radicalisation ». Et puis à 19h15, bien sûr, comme tous les soirs, on refera le monde. La météo, bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
De la chaleur, mais encore des orages.
Ah exactement, des orages qui se produisent ce soir en Normandie, dans le nord-est ou encore autour de la région Rhône-Alpes. La menace existera encore dans d'autres régions au cours des prochaines heures. Et demain matin, si ça se calme, ça reprendra en cours d'après-midi avec de nouveau ce risque orageux. Alors toujours aussi difficile à localiser précisément, mais le risque existera quasiment partout en cours d'après-midi. Il sera un petit peu plus marqué entre les Pyrénées et le Massif central. C'est peut-être là que les orages seront les plus violents. Il y en aura moins près de la Manche ou encore sur le littoral méditerranéen. Puis côté température, toujours de la chaleur, 22 à 25 degrés près de la Manche, 26 à 30 degrés dans les autres régions de la moitié nord, et encore 30 à 33 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis.
RTL Soir.
48 heures après son évasion spectaculaire, la traque de Redouane Faïd continue.
La dernière image du braqueur au volant d'un Kangoo blanc remonte à dimanche à Aulnay-sous-Bois, véhicule retrouvé le lendemain calciné près de Beauvais. Depuis, plus aucune trace du malfaiteur, mais les enquêteurs Olivier Bois ont la conviction qu'il est toujours en France.
Oui, rien ne permet de supposer qu'il a quitté la France, c'est ce qu'a dit tout à l'heure au cours d'une conférence de presse Philippe Véroni, qui supervise l'enquête en tant que chef de la sous-direction de la lutte contre le crime organisé au sein de la police judiciaire et qui décrit du coup forcément une cavale à haut risque.
Redouane Faïd, à l'instant T et dans les jours qui suivent, il joue quelque part sa vie, puisque je crois qu'il était libérable en 2038, quelque chose comme ça, hein, de mémoire. Il joue gros parce qu'évidemment, son premier objectif, c'est de ne pas être repris. Maintenant, malheureusement, nous espérons qu'il ne réitère pas des faits criminels comme je disais tout à l'heure, mais une cavale, ça se finance. Une cavale, ça suppose des moyens de fuite, des moyens de repli, des moyens de dissimulation, des complices, de l'argent, et ça suppose beaucoup de choses dans le temps. Une cavale, ça dure pas 3 jours, ça dure pas 4 jours, ça peut durer longtemps.
Les policiers pensent aujourd'hui que Faïd a autour de lui les 4 ou 5 complices qui ont mis en place l'évasion millimétrée. Des hommes qui ont montré du professionnalisme et du sang-froid, qui n'ont pas fait d'erreur non plus depuis l'évasion. À ce stade, selon les enquêteurs, aucun de ces hommes n'a été identifié.
Merci Olivier Bois. Redouane Faïd, qui était au parloir avec son frère juste avant de s'évader. Parloir qui, on l'a appris aujourd'hui, avait été avancé de l'après-midi au matin à la demande du prisonnier officiellement pour pouvoir suivre le match de foot. La garde à vue du frère de Redouane Faïd, elle a été levée hier soir, et pour son avocate, maître Keren Safar, Brahim s'est fait piéger.
Il le dit lui-même aux enquêteurs, il ne m'a pas mis dans la confidence parce qu'il savait que s'il m'était dans la confidence, je ne le suivrais pas dans son projet. Et l'état d'esprit de ces individus, de ces bandits, c'est pas d'emmener avec eux dans leurs problèmes judiciaires et policiers leur famille. Donc ils essayent de les protéger au maximum. On se doute bien que c'est une évasion qui a dû nécessiter une préparation. Je ne pense pas, et d'ailleurs l'enquête ne l'a pas établi, qu'il aurait pu mettre dans la confidence son frère, puisque c'était prendre des risques inutiles tout simplement.
L'avocate de Brahim Faïd, le frère du braqueur au micro RTL de Cléo Rebo.
On en attendait beaucoup, mais le nouvel interrogatoire de Nordal Lelandais a tourné court aujourd'hui.
Le meurtrier présumé de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer était à nouveau face au juge ce matin pour s'expliquer sur les circonstances de la mort de l'enfant fin août en Isère, et pour évoquer également les soupçons d'agression sexuelle sur une petite cousine, des faits qui auraient eu lieu une semaine avant le meurtre de Maëlys. Cela faisait 3 mois que Nordal Lelandais n'avait pas parlé, Serge Peillot, mais finalement la grande d'explication attendue n'a pas eu lieu.
Nordal Lelandais est resté à peine une heure dans le cabinet des juges, alors que les magistrats avaient pourtant beaucoup de questions à lui poser sur les circonstances de la mort de Maëlys. Très rapidement, l'ex-militaire a dû faire comprendre qu'il ne souhaitait pas collaborer. Impossible pourtant à cette heure de savoir précisément comment les choses se sont passées. Même l'avocat des parents de Maëlys, maître Fabien Rajon, n'a rien voulu dire.
En ma qualité d'avocat, partie civile, avocat des parents de l'enfant Maëlys, je ne m'exprimerai pas publiquement s'agissant de l'interrogatoire auquel j'ai assisté conformément au principe du secret d'instruction, et je vous demande donc de bien vouloir respecter ma position. Je vous remercie.
Selon nos informations, Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordal Lelandais, s'est plaint ces dernières semaines au magistrat grenoblois des violations répétées du secret de l'instruction. Tout sort dans la presse. Si cela continue comme ça, mon client ne s'exprimera plus, avait menacé l'avocat lyonnais. Cette menace a peut-être été mise à exécution après la révélation de nouvelles informations ce matin dans les médias sur les résultats de l'autopsie de la petite Maëlys.
Serge Peillot, correspondant de RTL en Isère.
C'est un chiffre record. Le nombre de migrants mineurs en centre de rétention a bondi de 70% l'an dernier dans notre pays.
Avec 304 enfants enfermés en métropole, les associations dénoncent un système inefficace et surtout une violation des droits de l'homme. Marie Mollet, alors comment expliquer une telle explosion ?
Eh bien d'abord parce qu'une loi votée en 2016 autorise clairement la rétention des mineurs, alors que jusqu'ici il y avait un flou juridique. Ensuite, parce que le recours à la rétention de façon générale a augmenté, plus 10% en métropole par rapport à 2016, et en France, on ne sépare pas les enfants des parents. Donc si la rétention des adultes augmente, potentiellement la rétention des enfants augmente. Du côté du gouvernement, on avance une autre explication. Il y a de plus en plus de migrants venus des pays de l'Est, d'Albanie en particulier, qui viennent en famille et qui ne sont pas éligibles au droit d'asile. Quoi qu'il en soit, pour les associations, la rétention, c'est une prison qui ne dit pas son nom et une expérience traumatique pour tous les enfants qui y passent, comme l'explique David Rouy de la CIMAD.
Nous avons vu enfermer en rétention, par exemple, un bébé de 3 semaines dans un centre de rétention qui était chauffé à peine à 10 degrés. Nous voyons des enfants qui sont prostrés, une petite fille de 10 ans qui a pu nous dire « pourquoi je suis enfermée, je n'ai rien fait de mal ». Des enfants qui cessent de s'alimenter, des enfants qui urinent sur eux suite au stress que provoque cet enfermement. Donc c'est une pratique, même quand c'est court, qui est extrêmement grave.
Alors ces enfants restent très peu de temps en rétention, une journée, une nuit en moyenne avant d'être renvoyés chez eux. Malgré cela, la France a été condamnée à 6 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'enfermement de ces enfants en raison de traitements inhumains et dégradants.
Explication RTL de Marie Mollet. 2 châteaux du Bordelais vont devoir s'expliquer devant la justice pour avoir répandu des pesticides près d'une école. C'était en 2014 à Villeneuve-de-Blaye en Gironde. Des élèves avaient été pris de malaise. Ce sera le premier procès de ce type. La date n'est pas encore connue.
RTL Soir, il est 18h09.
Dans un instant, Geoffroy Roux de Bézieux, nouvelle figure de proue du patronat.
18h10, RTL Soir avec Philippe Robuchon et la suite du journal de Céline Landreau.
Depuis ce matin, les patrons ont un nouveau chef. Geoffroy Roux de Bézieux a été élu à la tête du MEDEF.
Un spécialiste des nouvelles technologies, le patron du groupe Notus avait déjà brigué le poste. Cette nouvelle tentative fut la bonne. Geoffroy Roux de Bézieux a été assez largement élu avec 55,8% des voix face à Alexandre Sobo. Anaïs Bouissou, le successeur de Pierre Gattaz, veut maintenant redonner un nouveau souffle au MEDEF.
Oui, son objectif, c'est de faire entrer le MEDEF dans l'ère des nouvelles technologies. Ne surtout pas rater la révolution numérique qui aura lieu d'ici 5 ans.
Ce sont les algorithmes qui feront la médecine prédictive, les véhicules seront autonomes et électriques, les bâtiments seront connectés et économes en énergie, les robots auront envahi notre quotidien. Ces changements technologiques vont bouleverser le monde du travail.
Et pour moderniser les entreprises, Geoffroy Roux de Bézieux veut encore faire baisser le coût du travail, diminuer les impôts sur les entreprises, mieux former les salariés et faire évoluer les contrats de travail. Un nouveau souffle pour Geoffroy Roux de Bézieux, c'est aussi un nouveau style. Il prévient, le MEDEF ne fera plus de négociations pour la forme, pour faire plaisir au gouvernement, s'il n'y a pas vraiment un projet à débattre. Pour la chef d'entreprise Sophie de Menton, c'est un style parfaitement adapté à la vision d'Emmanuel Macron.
On a voté pour un style, pour l'esprit Macron, entre guillemets. On a quelqu'un qui est communicant, qui est complètement jeune, qui est une nouvelle technologie. Il a une vision en tout cas d'un avenir, il a la même vision qu'Emmanuel Macron.
Pour Geoffroy Roux de Bézieux, le MEDEF doit enfin se tourner vers l'Europe, ne plus seulement gérer les questions économiques franco-française, parce que, dit-il, l'Europe est en grand danger. Anaïs Bouissou pour RTL.
Et dans quelques minutes, à 18h20, on demandera ce qu'il en pense à Pascal Pavageau, le secrétaire général de Force Ouvrière. Les collectivités locales adoptent la politique de la chaise vide. Elles boycotteront la Conférence nationale des territoires.
L'Association des maires de France, comme celle des départements et des régions, ont annoncé aujourd'hui qu'elle ne serait pas présente le 12 juillet prochain. Une rupture pour mettre en garde le gouvernement. Les trois grandes organisations d'élus regrettent en effet un manque de dialogue et dénoncent un pouvoir autocratique et centralisateur. Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France.
On a l'impression que l'État traite les collectivités non pas comme des partenaires, mais comme des sujets. En ce qui concerne les départements, par exemple, nous payons la solidarité sociale, le RSA, l'APA pour les personnes âgées. On avait des discussions intelligentes et intéressantes avec le Premier ministre Édouard Philippe. Puis un matin, on apprend dans la presse, sans que personne nous ait téléphoné, que l'État retire sa proposition. Si les discussions ne reprennent pas, il peut se passer qu'un grand nombre de départements ne puissent pas verser la totalité des allocations, en particulier dans les derniers mois de l'année.
Réponse cet après-midi à l'Assemblée nationale du Premier ministre Édouard Philippe.
Dans cette grande question de la maîtrise de la dépense publique, les collectivités locales vont jouer leur part. Leurs dépenses vont progresser, mais elles vont participer à cette maîtrise. L'État participe également à cette maîtrise. Dans le budget 2018 tel qu'il était exécuté et dans le budget 2019 tel qu'il est préparé, le rythme de progression des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales a été fixé à un niveau supérieur à celui des dépenses de l'État.
Un propos recueilli pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire. Autre boycott, celui de la France insoumise. Les députés ont confirmé aujourd'hui qu'ils ne participeront pas au congrès convoqué lundi à Versailles. Ils expliquent qu'ils refusent d'entendre, je cite, le monarque Emmanuel Macron et de débattre en son absence. Le président de la République qui est arrivé au Nigeria cet après-midi, il y rencontre son homologue Mamoudou Bouhari pour évoquer notamment les questions de sécurité.
RTL Mondial 2018.
Et le duel européen du jour a tourné à l'avantage de la Suède, qui jouera donc les quarts de finale.
Victoire 1-0 des Scandinaves sur les Suisses, but de Forsberg. La Suède n'avait pas disputé un quart de finale de Coupe du Monde depuis 1954. Elle connaîtra son futur adversaire ce soir. La Colombie affronte l'Angleterre à 20h. Match à vivre bien sûr dans le club RTL Mondial 2018.
Les Bleus, eux, sont focalisés sur leur match de vendredi face à l'Uruguay.
À J-3 désormais du quart de finale, on ignore encore le 11 de départ. L'entraînement avait lieu à huis clos. Aujourd'hui, il y a un vrai huis clos, Philippe Sanfourche, car l'équipe de France s'est carrément cloîtrée.
Oui, effectivement, périmètre de sécurité autour du stade, dispositif policier ultra renforcé traduisent la volonté absolue du staff technique de garder secret le plus longtemps possible les détails de la composition d'équipe pour défier l'Uruguay vendredi. La principale et quasi seule interrogation porte sur le nom du remplaçant de Blaise Matuidi, suspendu au milieu de terrain. Un vrai manque pour Didier Deschamps, comme le confiait encore hier son adjoint Guy Stéphane.
Bien sûr que c'est un élément important, Blaise. On n'a pas 70 sélections et je crois 9 ou 10 buts depuis autant d'années sans être un cadre de l'équipe. Donc c'est un joueur qui va évidemment manquer. Il y a d'autres joueurs évidemment qui peuvent le remplacer et d'autres joueurs d'excellente qualité.
Corentin Tolisso et Thomas Lemar tiennent la corde pour assurer cette transition. Les Bleus, qui au-delà des séances d'entraînement travaillent beaucoup en vidéo pour décortiquer jusqu'à hier leur performance face à l'Argentine, c'est demain qu'ils commenceront à examiner joueur par joueur les forces et faiblesses de l'Uruguay pour déterminer précisément les rôles de chacun sur le terrain.
Philippe Sanfourche, un des envoyés spéciaux de RTL en Russie. Edinson Cavani lui aura du mal à être sur la pelouse. Ça peut être difficile, a reconnu son coéquipier Luis Suarez, l'attaquant du PSG et de l'Uruguay. l'Uruguay, évidemment, avait dû sortir en huitième de finale contre le Portugal, touché au mollet. Le PSG, à nouveau, dans l'attente d'une décision de l'UEFA, cette fois sur le fair play financier. L'instance de contrôle avait décidé, mi-juin, de ne pas prendre de sanctions, mais elle annonce aujourd'hui qu'elle va réexaminer le dossier parisien.
Merci Céline, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. Une prime pour les enseignants dans les quartiers les plus défavorisés. Elle sera versée donc à partir de septembre prochain. Confirmation de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Bonsoir Marie Guerrier.
Bonsoir.
De combien sera cette prime? À qui sera-t-elle attribuée?
Ça concerne 41 000 enseignants de primaire et collège en REP, plus les réseaux d'éducation prioritaire renforcés, mais aussi les personnels de direction, administratifs et médicaux qui travaillent dans ces établissements. En tout, quelques 46 000 personnes. Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avait promis une prime annuelle de 3 000 euros net. Mais en septembre prochain, ce sera seulement 1 000 euros. Ensuite, la prime augmentera en 2019, puis en 2020, et devrait alors atteindre 3 000 euros par an. Une prime de reconnaissance pour le travail difficile en REP+, pour rendre ces postes plus attractifs et fidéliser les enseignants.
Alors cette prime, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, envisage de l'indexer au mérite. Le mérite, par définition, c'est subjectif. Alors qui décidera et sur quels critères?
Le ministère a commencé à en parler aux organisations syndicales qui dénoncent le flou autour de cette notion de mérite et plaide d'ailleurs pour la même prime pour tous. Les discussions doivent se poursuivre. Une partie de la prime minoritaire pourrait être conditionnée au progrès des élèves et à la réalisation d'un projet collectif d'établissement. Mais comment on évalue tout ça, ça reste à déterminer. Il y avait déjà eu une tentative de prime avec une part fixe et une part variable en éducation prioritaire entre 2011 et 2014. C'était la prime éclair, finalement abandonnée. Ce sont alors les inspecteurs d'académie qui jugeaient l'investissement des enseignants et répartissaient l'enveloppe budgétaire.
La question d'actu signée Marie Guerrier.